Et oui, dans Lille Info aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux, bien sûr, comme d'habitude, on va dire, mais un sujet qui est particulier puisqu'il s'agit d'un sujet autour de la maladie qui s'appelle la myopathie. Pour nous parler de ce sujet, j'ai invité Mathias Lambert, qui est étudiant en Master 2, Biologie Santé, et qui est victime de la myopathie. Bonjour Mathias Lambert.
Bonjour.
Donc voilà, on a entendu parler bien sûr du Téléthon, tout ce qu'il y a autour de cet événement annuel et de la recherche en France autour de la myopathie. On va aujourd'hui un petit peu entrer plus précisément dans le domaine de la recherche, notamment parce que vos études vous ont conduit à cette recherche et que bien sûr en tant que myopathe, vous êtes un des premiers intéressés pour trouver des solutions à cette maladie. Tout d'abord, on peut peut-être définir la myopathie en quelques mots. C'est quoi?
Eh bien, la myopathie, c'est tout simplement une maladie du muscle. Donc, ça va toucher le muscle, et ce, à différents niveaux. Ça peut être les fibres musculaires elles-mêmes ou carrément le nerf après menant au muscle. Donc, toute la connexion qui va faire entre le cerveau et le muscle. Donc, c'est vraiment à différentes étapes. Et la principale caractéristique ensuite, c'est vraiment une perte de force musculaire. Donc, de vraiment une très faible perte. Jusqu'à une totale paralysie pour certaines personnes.
Si on fait le parallèle avec la myasthénie, par exemple.
La myasthénie, ça peut faire partie, on peut dire, d'une certaine myopathie en quelque sorte. Bon, après la myasthénie, après, c'est vraiment d'autres symptômes. Hein, ça peut être par exemple au niveau des yeux, des personnes qui ont du mal à ouvrir les yeux, des choses comme ça. Bon, après, c'est vraiment des symptômes très différents d'une myopathie à l'autre. Il faut savoir qu'il y a vraiment des centaines de myopathies qui sont potentiellement connues, et après, peut-être encore de nombreuses non connues. Donc, vraiment, les symptômes sont vraiment divers et variés, quoi.
Est-ce qu'on peut connaître si éventuellement il y a des causes à cette maladie?
Les causes, ça peut être génétique. Ça peut être aussi dû à l'environnement, parce que bon, une personne qui n'est pas atteinte, enfin qui n'a pas de symptômes, je veux dire à la petite enfance ou même à l'adolescence, peut avoir les symptômes d'une myopathie ensuite à l'âge adulte et se retrouver bon diagnostiqué à 50 ans comme étant myopathe. Donc après, c'est très difficile de savoir.
Donc, vous êtes né myopathe.
Oui, ça a été reconnu dès la naissance. Ouais.
Est-ce que génétiquement, vos parents avaient ce symptôme
Non,
quelque
pas du tout. Non, je suis le premier dans la famille, même à des, je veux dire, chez les grands-parents, même arrière-grands-parents, il n'y avait pas de symptômes ni de description d'une quelconque maladie liée aux muscles.
Donc, quand on a cette maladie au départ, on la découvre quand, en fait, les parents découvrent cette maladie à quel moment?
Moi, ça a été découvert directement à la naissance. J'avais pas le réflexe de marche en fait tout de suite juste après la naissance. Bon, j'avais vraiment une forte hypotonie, je bougeais pas, je criais pas. Enfin bon, j'étais assez calme. Donc bon, on se pose un peu de questions à ce moment-là. On se dit cet enfant-là, il est pas tout à fait normal. Donc on va faire des tests. Hein, au tout début, on savait pas. Puis ça a été fait bon, on va dire au bout de 4-5 mois où ça a été diagnostiqué comme une myopathie. Mais sans nom, parce que le gène n'est pas connu, toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est une myopathie parce que ça touche le muscle, mais la cause, le gène qui est en cause, on ne sait pas.
Cette batterie de test, elle est réalisée a priori dès qu'un symptôme a l'air d'être en rapport avec cette maladie.
Oui, tout à fait. Bon, ça peut être une recherche de gène. Si les symptômes correspondent à un autre patient qui lui a eu son gène découvert, enfin un de ces gènes mutés a été découvert comme étant peut-être responsable de la maladie, bon, on va rechercher ce gène si lui aussi a été muté. Ou alors après, ça peut être des biopsies, donc on va faire une découpe un peu, enfin on va découper un petit bout de muscle et ensuite on va regarder par microscopie en faisant différents tests, voir comment réagit le muscle à certains traitements, des choses comme ça, pour voir justement aussi des symptômes, enfin des cas physiologiques, on va dire.
Dans une analyse de sang, est-ce qu'on peut repérer des choses qui pourraient mettre en relation avec cette maladie?
Y a certains marqueurs, mais bon, ça reste assez vague pour l'instant. Il y a des marqueurs comme la créatine kinase. Mais bon, ça reste vraiment fluctuant d'un individu à l'autre, hein, parce que dès qu'on fait du sport ou des choses comme ça va changer, ça va soit diminuer, soit augmenter, tout dépend des individus. Donc ça peut être potentiellement... ça peut potentiellement servir à une description ou à une aide, je veux dire, un symptôme supplémentaire. Mais à l'heure actuelle, non, avec une simple prise de sang, on peut pas savoir si quelqu'un a des problèmes au niveau musculaire, non.
Donc Mathias Lambert, vous l'avez dit, tout d'abord c'est l'équipe médicale, on va dire, et les parents qui ont repéré un problème. Est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous avez perçu la difficulté à quel moment?
Ça a été assez rapide. Enfin, moi, je comprenais pas ce qui se passait parce que bon, quand on est petit, on fait pas attention à ça. Bon, on vit comme tout le monde. On essaye de jouer comme les enfants, jouer comme les enfants de mon âge. Donc, j'avais pas cette sensation. Bon, je voyais que j'avais des difficultés, mais je comprenais pas. Je veux dire, on essayait de m'expliquer, mais bon, moi, je savais pas ce que c'était. Donc, c'est sûr que quand je me retrouvais sur le côté, je comprenais pas. Fallait éviter la frustration à cette époque-là. Surtout, c'était même un ordre des médecins, on va dire, c'est d'éviter la frustration et au contraire prendre une part sur le combat. Donc, non, au niveau de l'enfance, non, c'était de l'incompréhension et bon, ça a certes évolué hein, avec l'âge.
À quel moment vous êtes né? C'est quoi votre année de naissance?
90, 1990.
Est-ce que si on revenait peut-être 20 ou 30 ans en arrière, être né myopathe, ça aurait posé d'autres problèmes?
Déjà, à l'époque, enfin, c'était les tout débuts du Téléthon. Hein, ça devait peut-être la quatrième année que ça existait en France. Donc, si on reculait ça de 30 ans, c'est sûr que la myopathie, on ne savait pas du tout ce que c'était. Même au niveau prise en charge, des choses comme ça, hein, c'était pas du tout la même chose. Et même au niveau, pour les médecins, décrire une myopathie aux années 60, je pense pas que c'était assez évident.
Vous le disiez, c'est une maladie qui a des formes assez différentes, multiples, on va dire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus en difficulté quand ils sont myopathes à la naissance que d'autres?
Oui, tout à fait, hein, parce que bon, il se peut par exemple qu'à la naissance, on n'ait aucun symptôme, et tout va bien, et que par exemple, à l'âge de 3-4 ans, certaines personnes vont commencer, donc après avoir débuté la marche comme tout le monde, vont commencer peut-être à tomber. Donc ils vont tomber une fois, deux fois, et ça va s'accentuer au fil de la marche, les chutes vont se raccourcir enfin, au niveau du temps, et on va se dire pourquoi cet enfant-là tombe assez fréquemment. Et généralement, c'est là où on découvre peut-être un symptôme, enfin, et ensuite une maladie, ou ensuite ça peut être, comme je disais tout à l'heure, à l'âge de, par exemple, je sais pas, 50 ans, ça peut se déclarer à cette époque-là, ou comme moi, je l'ai su tout de suite, hein, j'avais vraiment une hypotonie, une perte de force vraiment extrême, où il fallait vraiment tout m'apprendre et me faire répéter les gestes à chaque fois pour que le geste soit appris, quoi.
Donc, vous l'aviez dit, il y a 40 ans ou 50 ans, la sensibilisation n'existait pas, on connaissait très mal cette maladie. Il y a eu le Téléthon entre deux. Est-ce que le Téléthon, au-delà de la mise en lumière, on va dire, de cette maladie, a amené réellement des solutions financières et techniques pour répondre aux problèmes?
Oui, quand même, je veux dire, il y a eu de grandes avancées qui ont été faites, comme la description du génome humain. Ça a été quand même une grande avancée, de connaître le génome humain. C'est déjà un petit travail exceptionnel pour essayer de découvrir certains gènes, ou même pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, au niveau médical, là on arrive vraiment aux essais sur l'homme. Donc certes, ça a mis un peu plus de 20 ans, mais à l'échelle de la science, 20 ans, c'est pas grand-chose. Hein, c'est vraiment rapide quand on compare ça à plusieurs siècles pour découvrir une chose. Là, on a quand même mis seulement 20 ans pour arriver là, à des traitements sur l'homme. Bon, je sais pas si ça va être concluant ou non, mais bon, c'est déjà une grande avancée.
Dans certains milieux intégristes, il y a des questionnements sur la recherche sur le génome humain.
Oui.
Est-ce que vous sentez, vous, des risques de dérapage ou pas?
Après, ça dépend, c'est sûr. Il faut toujours avoir un comité éthique derrière pour garder ça. Après, je sais pas si vous étiez sur le clonage ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que bon, faut faire attention à cette chose-là. C'est sûr que bon, on peut pas faire n'importe quoi, on travaille chez l'homme. Je veux dire, même si c'était chez le... Bon, certaines équipes travaillent chez le rat, ou même simplement des cellules, hein. C'est, il y a toujours un comité éthique derrière pour savoir vraiment ce qu'on fait, et pour faire attention justement à ça, quoi.
Cette recherche, on peut imaginer qu'elle se fasse à Lille 2, puisque c'est droit et santé.
Oui.
Est-ce qu'à Lille 1, il existe également des labos qui travaillent là-dessus ?
Tout à fait. Il y a le labo du SN4, donc laboratoire d'activité physique, muscles et santé, donc de Lille 1, qui va justement travailler au niveau de certaines atrophies musculaires. Donc au niveau, ça peut être au niveau, là pour l'instant, ici c'est en recherche, donc c'est au niveau chez le rat. Donc c'est certaines atrophies musculaires qui peuvent être caractéristiques d'une myopathie, ou encore d'autres myopathies un peu plus, on va dire, un peu plus rares, qui vont peut-être toucher quelques personnes, mais qui vont nous permettre de comprendre ensuite les mécanismes sous-jacents.
Cette recherche qui est faite à Lille 1, elle est en parallèle ou en partenariat avec d'autres équipes, je suppose ?
Oui, tout à fait. Ça peut être aussi fait, c'est en partenariat avec Lille 2, avec le CHR, avec notamment aussi l'hôpital Zwinglio, donc de Lille 2, qui est une plateforme de référence pour les maladies neuromusculaires, et donc notamment les myopathies. Et donc, c'est un peu faire la transition donc à Lille 1 chez l'animal, et ensuite à Lille 2 chez l'homme. Donc c'est vraiment un laboratoire qui va essayer de faire la transition entre ces recherches d'une part, et ensuite la mise en application chez l'homme ensuite.
Alors je suppose que pour vous, le temps semble long de trouver des réponses précises à vos problèmes.
Tout à fait, je veux dire que le temps n'est vraiment pas le même entre un patient et un scientifique. Hein, une année de recherche, pour nous, c'est vraiment, ça se passe très rapidement. Je veux dire, pour mettre en place une manip, c'est vraiment long, fastidieux. Bon, il faut mettre 2-3 mois à mettre un protocole en place ou des choses comme ça. Alors que pour un patient, 2-3 mois, c'est long. Hein, pour lui, il attend toujours derrière une réponse, une solution à sa maladie. Et puis nous, on essaye bien sûr de faire ça le plus rapidement possible, mais toujours avec l'idée de bien faire.
Est-ce que vous jugez que l'investissement du Téléthon par rapport aux résultats que vous décrivez là est significatif, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres formes de répartition des financements ou d'organisation de la recherche à mener ?
Je pense, parce que on a à la fois le génome donc, qui a été découvert, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de... Il y a peut-être, je veux dire, un peu trop de financement qui est mis sur le gène. Et il y a peut-être d'autres solutions à voir que le gène, il y a peut-être autre chose que les thérapies géniques, hein. Il y a peut-être tout ce qui est pharmacologie, donc des médicaments à prendre directement, ça peut être vraiment une piste intéressante, ou même juste tout ce qui est le diagnostic, parce que c'est pas le tout de donner un traitement à une personne sans vraiment savoir ce qu'elle a. Hein, si bon, certes, on a découvert son gène muté, mais on comprend pas le mécanisme, c'est bien beau, mais si on donne ce médicament sans savoir les causes après... Ça peut être un peu embêtant, donc c'est sûr qu'une part importante est donnée sur le génome, mais bon, il serait bien de donner d'autre part à d'autres recherches en parallèle. Ça peut être, je sais pas, comme sur les protéines, ça peut être intéressant aussi de donner des financements pour être sur une autre échelle que le gène.
Alors, je sais qu'il y a un laboratoire de protéomique ici, protéonique, ouais, à l'université. Donc, ces recherches, effectivement, est-ce que vous jugez qu'elles avancent à grands pas en ce moment, ou qu'il y a des résistances, peut-être, de cette maladie à trouver des solutions ? Comment vous ressentez les choses ? Est-ce que vous voyez des progrès plutôt rapides ou plutôt une décélération ?
Enfin, moi, je vais parler dans mon cas, parce que moi, actuellement, je travaille sur les protéines, donc sur la myopathie, sur certaines myopathies au niveau de la protéine. Donc, c'est sûr, enfin, là, on est vraiment à une étape vraiment juste au début du chemin. Hein, vraiment, on a commencé un projet. Donc, c'est sûr que c'est assez difficile, parce que c'est autre chose que la génétique. Hein, c'est vraiment un autre domaine. Donc là, c'est vraiment la protéique, c'est vraiment... un domaine totalement différent qu'il faut essayer d'apprivoiser pour essayer de trouver des solutions à différents traitements par rapport aux muscles ou des choses comme ça. Donc la recherche à ce domaine-là, je pense que ça l'accélère. Ça, il n'y a pas de souci, ça avance assez vite. De jour en jour, on découvre de nouvelles choses. hein, mais je pense que c'est sur la bonne voie.
Vous parliez tout à l'heure de traitement, de médicaments. Est-ce que les labos sont frileux pour investir parce que finalement le public n'est pas suffisant pour amortir ces coûts de recherche?
Tout à fait. Donc ça, c'est même peut-être pas un problème de laboratoire, c'est peut-être même plus un problème de pharmaceutique. Les grandes industries pharmaceutiques qui veulent peut-être pas mettre de l'argent sur la table pour certains médicaments qui vont peut-être toucher une dizaine de personnes en France ou une centaine de personnes dans le monde. Pour elles, ça va pas leur apporter grand-chose. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certaines maladies qui sont peut-être peu connues ou qu'elles touchent peu de monde dans le monde, enfin oui, dans le monde, ça peut, si on comprend ces mécanismes de cette maladie, ça va peut-être pouvoir nous aider à comprendre le mécanisme d'une maladie qui va peut-être, elle, toucher plus de monde, justement. Donc ça, c'est ça aussi qu'il faut essayer de mettre en avant. C'est pas parce qu'une maladie est, on va dire, orpheline ou qu'elle touche peu de monde qu'elle n'est pas importante. Toutes les maladies sont importantes. Qu'on est dans la peau d'un patient, bah pour elle, elle se pose pas la question, bah tiens, moi je suis toute seule à la voir, ou on est 10 dans le monde, et on s'occupe pas de moi. Non, pour elle, c'est vraiment... C'est une maladie comme une autre, et c'est la même importance qu'une maladie qui va peut-être toucher 10 000 personnes.
Peut-être aussi qu'en recherche, quand on cherche sur quelque chose, sur un objet, entre guillemets, on peut trouver des solutions pour un autre.
Ça, c'est le grand but de la recherche aussi, c'est quand on trouve quelque chose bon, qui peut-être pas en rapport avec notre sujet, bon, on va quand même essayer de le faire avancer pour qu'une autre équipe qui, elle, bosse sur ce sujet-là, va pouvoir travailler sur justement sur cette chose qui a été découverte. Donc non, ça c'est vraiment très important.
Donc là, on est quelques semaines après le
Ouais.
Téléthon. Si on fait un petit bilan.
Bah, je pense que ça a pas été trop mal, hein, parce que bon, certes les chiffres ont diminué, mais bon, je veux dire, c'est en temps de crise, les gens ont autre chose, je veux dire, peut-être à faire aussi. Elles doivent penser à elles aussi. Bon, l'argent, c'est difficile à le gagner en ce moment. Donc, je comprends tout à fait que les dons ont pu baisser. Mais non, je pense que ça a été encore une belle année. Et puis bon, faut savoir que le Téléthon, c'est pas seulement 2 jours. C'est toute l'année, à la fois pour ceux qui organisent et également pour les patients. Donc, c'est sûr que ces 2 jours de télévision, on met vraiment en lumière la maladie, la myopathie. Ou même, on va dire en général, les maladies rares. Parce que c'est pas non plus seulement les myopathies, hein, ça peut être vraiment d'autres maladies. Très rare. Et donc, non, c'est pas seulement 2 jours, mais c'est vraiment toute l'année. Cette année, non, je pense que ça a été une bonne année qui va permettre de faire avancer la science.
Alors, le Téléthon, c'est effectivement une organisation qui permet de récolter des fonds destinés à des objets peut-être multiples, hein. Au-delà de ça, pourquoi l'État, qui finalement paye d'un autre côté, puisqu'il y a une déduction fiscale, etc., n'investit pas complètement ses ressources dans la recherche pure?
Bah, c'est une bonne question, hein. On se la pose, on se la pose depuis pas mal d'années parce que bon, il y a certains domaines qui sont vraiment mis un peu plus en valeur que la myopathie, hein. Ça peut être un exemple, par exemple, enfin les plans Alzheimer ou des choses comme ça, qui sont un peu plus mises en avant dans la recherche et dont les financements sont un peu plus grands. Mais bon, après, c'est l'État qui gère ça, donc. Après, je suis pas avec eux pour savoir ce qu'ils se disent à ce sujet.
Là, vous préparez une carrière, on va
Oui,
dire,
tout à fait.
et votre domaine de recherche est en correspondance.
Oui, tout à fait, parce que bon, moi, donc là, je suis en master de recherche et je travaille actuellement donc sur certains types de myopathie, grâce à un apport. On dirait une stratégie de type protéomique.
Donc, dans ce cadre-là, vous travaillez en équipe,
Donc, tout à
forcément.
fait. Hein.
Comment, dans votre équipe, on ressent le fait que vous soyez atteint de cette maladie? Est-ce que vous sentez justement que vous portez en même temps, au travers de cette équipe, un message, un besoin, et que ça les motive davantage?
Bah, j'espère, hein, parce que bon, moi, après, je le fais pas. Moi, j'y pense pas tous les jours. Je veux dire, moi, après, ça se fait naturellement. Je suis né avec cette maladie, donc moi, après, tout ce que je fais, c'est pas. Je veux dire, j'ai pas une arrière-pensée tout de suite avec cette maladie. Mais bon, j'espère que ça peut servir à certaines personnes et c'est en ayant un message comme quoi, c'est pas en ayant des difficultés, enfin, avec des difficultés qu'on n'arrive pas à faire certaines choses. Hein. Tout est possible tant qu'on y met de l'effort et de la conviction. Hein. Si les autres personnes, ça permet de les emmener, les faire aller un peu plus haut à chaque fois, repousser un peu les limites, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc si ça peut, si mon cas peut aider, je veux dire, franchement, si ça peut aider une personne, ben voilà, moi, je veux dire, mon boulot sera fait, hein, ça sera tout, quoi. Mais non, j'espère que ça peut vraiment faire réfléchir certaines personnes sur la foi, les difficultés que même chacun peut avoir, hein, même ses propres difficultés, de se dire, bon, on peut dire, enfin, si la conviction est que le mental suit, on peut peut-être y arriver, quoi.
Est-ce que pour votre famille, le fait que vous travaillez dans ce domaine, c'est une façon pour eux de sentir que les efforts aussi qu'ils ont dû faire a été récompensé par cette transmission de pouvoir, on va dire?
Bah, tout à fait, hein, et je les en remercie ici, parce que bon, c'est quand même grâce à eux que je suis là aujourd'hui, hein, parce qu'ils m'ont énormément aidé, soutenu pendant que j'étais, on va dire, petit à l'époque. Ça n'a pas été toujours facile, hein, parce que on va dire, je suis en pleine forme, parce que bon, il y a eu énormément d'exercices de kinésithérapie qui a été fait derrière. Mais bon, à l'époque, j'avais d'énormes difficultés à marcher, ou encore j'étais très maigre, j'avais du mal à manger, à déglutir, donc c'était vraiment difficile déjà. C'était la survie à l'époque, donc c'était vraiment difficile pour mes parents. Même pour le reste de la famille, ou même certaines personnes de la famille qui n'ont peut-être pas accepté le fait de la maladie, bon, aujourd'hui, ils voient que je réussis totalement, quoi. Donc, c'est à la fois une revanche, à la fois sur ces personnes, et aussi, je pense, j'espère, une fierté pour mes parents qui me voient aujourd'hui réaliser un rêve. Hein. C'est, hein, quand, à ma naissance, on disait, bon... Il a une myopathie, mais bon, à l'époque, une myopathie, ça voulait dire, bon, à 20 ans, il sera peut-être plus là. Bon, là, maintenant, j'ai mon bac, je suis en quasiment bac plus 5. Je me dis que, bon, j'ai réussi pas mal de choses déjà, quoi.
Est-ce que le fait d'entreprendre ces études, ça vous a permis plus facilement de devenir adulte?
Ah oui, ça a permis de mûrir énormément. J'ai appris beaucoup de choses, à la fois sur les études, hein, c'est tout à fait normal, mais également sur la vie, hein, entre étudiants, entre la solidarité qu'il y a pu avoir, parce que qu'il y avait peut-être pas avant, ou qu'il y avait peut-être un peu moins, ou que je ressentais un peu moins parce que j'étais plus jeune, donc peut-être un peu moins mûr, et j'avais pas cette compréhension totale. Donc là, j'ai pu vraiment me rendre compte de ce qui se passait, et qui m'a vraiment permis de grandir.
S'il fallait donner des conseils à des personnes myopathes, des jeunes par exemple, ou même à leurs parents,
ouais. Et ça serait de réaliser leurs rêves, faire ce qu'ils ont envie, même si c'est difficile, même s'il faut faire des démarches, même s'il faut batailler, même s'il faut y aller à la sueur, faut aller les armes au poing. C'est vraiment de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, de pas réfléchir mais vraiment d'y aller, quoi.
Et si vous aviez un vœu à formuler pour 2013?
2013, eh bien, que ça continue comme ça, que la recherche avance et que les gens continuent à soutenir cette cause qui j'espère, un jour, permettra de guérir, ou au moins de pouvoir éradiquer cette maladie.
Mathias Lambert, je vous remercie.
Merci beaucoup.